Parlons économie.
Bonjour.
Vous êtes donc bien directeur de la DGDRI, la Direction Générale du Développement Économique, de la Recherche et de l'Innovation, vous confirmez ?
Absolument, je confirme.
Bon, alors ça va, j'ai déjà un bon invité. Et puis, puisqu'on est, on verra si les choses fonctionnent, François Sibylle est censé être avec nous. Est-ce que vous nous entendez, François Sibylle ?
Je vous entends extrêmement bien.
C'est magnifique, vous qui êtes chargé de cours HES à Genève. Nous allons nous intéresser aux rencontres du management durable. Le management durable, on verra ça un petit peu plus tard aussi au cours de cette émission. Quelle est l'importance du management durable, tout d'abord pour Genève, pour l'État de Genève, Alexandre Epal?
Alors, elle est cruciale et puis depuis longtemps. Il faut dire que l'État de Genève a été relativement pionnier en la matière puisque... après la création, le vote d'une loi sur l'action publique en vue d'un développement durable déjà en 2001, donc on parle d'il y a 21 ans, c'est relativement pionnier en la matière, en tout cas en Europe. L'État de Genève s'est tout de suite investi, notamment, et d'ailleurs ma voisine de micro pourra en témoigner puisqu'elle faisait partie du groupe, sur un travail important qui s'appelait la rédaction d'un guide PME et développement durable. C'était déjà l'idée de se dire, les entreprises face aux enjeux de la durabilité économique, de la durabilité sociale et évidemment de la durabilité environnementale, doivent modifier leur modèle d'affaires. Et pour cela, il faut leur donner déjà un certain nombre de pistes. Je rappelle quand même que 85%, je crois à peu près, des entreprises genevoises ont moins de 7 à 8 employés.
Est-ce que les choses sont vraiment en train d'être prises en compte? Et ça sera peut-être plus une question pour vous, François Sibylle. Est-ce que cette question de durabilité, de développement durable, aujourd'hui est dans la tête principalement des entreprises? C'est le sujet de cette émission.
Alors, ce qu'on peut dire assez simplement, c'est que oui, c'est un sujet qui a beaucoup émergé. On en entendait parler il y a une dizaine d'années, mais c'était plutôt anecdotique. Aujourd'hui, c'est effectivement un sujet qui, d'une part, est devenu une préoccupation, mais qui, pour d'autres entreprises, est également un sujet qui est particulièrement à la mode. On parle d'impact carbone, de démarches décarbonées, de tout un tas de questions. Mais oui, aujourd'hui, rares sont les entreprises qui n'en ont pas entendu parler. Après, en matière de prise en compte et en matière de niveau de maturité sur ces sujets-là, c'est une autre question et ça prend plus de temps, c'est évident.
Comment fait-on, François Sibylle, pour déjouer le greenwashing? Parce qu'une entreprise qui fait réellement bien les choses, c'est formidable. Une entreprise qui nous dit « achetez mon produit parce que, bon, croyez-moi, il est bien fait », c'est autre chose.
Le point de départ de la démarche, et on est entièrement d'accord, il consiste à identifier quelque part comment on est concerné par les enjeux de développement durable, de responsabilité sociétale. Si je vous donne un exemple tout simple, moi, si j'ai deux ruches sur mon toit au-dessus de mon entreprise, que ce soit une entreprise en architecture, une entreprise en bâtiment, peu importe, et si je me fixe comme objectif le bien-être et la bonne alimentation de mes abeilles, ça ne va pas avoir le même sens que si je suis un apiculteur professionnel, un industriel de la miellerie, et que j'ai des millions d'abeilles à gérer. Et donc, d'un côté, ce sera sympa, mais proche du greenwashing. De l'autre, ce sera hyper pertinent. Et donc, la question, c'est, à un moment donné, arriver à cerner qu'est-ce qu'il est pertinent de faire dans mon entreprise, dans mon organisation.
Et raison pour laquelle, Nathalie Hardine et Alexandre Epal, il y a des certifications quand même qui sont mises en place autour de ces sujets-là.
Oui, tout à fait. Il y a beaucoup de certifications. Ça peut même être un peu une jungle pour les entreprises. Et avant même la certification, l'important, c'est la démarche, comme on dit. L'important, c'est le chemin, en fait. Après, ça peut déboucher sur une certification ou pas. Reste que c'est un gros travail pour une entreprise qui veut entrer dans une... Ça peut être un gros travail pour une entreprise d'entrer dans une démarche de responsabilité sociale. Et c'est un peu pour ça qu'on a créé les rencontres du management durable il y a 10 ans, pour permettre aux entreprises de mieux connaître ce sujet et aussi d'échanger leurs expériences. Parce qu'Alexandre Epal le disait, en 2003... l'État a fait ce guide de PME et développement durable. À l'époque, le sujet était très très nouveau pour les entreprises. Et depuis, la sensibilisation a largement eu lieu. Et on arrive maintenant à avoir des entreprises qui ont des échanges d'expériences à faire entre elles. Et ça, c'est vraiment très enrichissant.
Et est-ce que vous avez le sentiment, Alexandre Epal, que le ruissellement d'informations se fait? C'est-à-dire qu'on a ces rencontres du management durable, les entreprises repartent avec des clés. Encore faut-il les transmettre à tous les employés?
Oui, alors, c'est toujours la même chose, hein, optimiste, pessimiste, le verre est-il à moitié plein, moitié vide. J'aurais tendance à dire qu'il est à moitié plein, général, parce que je suis toujours optimiste, mais on a récemment demandé à un mandataire de, justement, toujours dans le cadre de ses conseils aux entreprises et de moderniser un peu ce guide PME à l'attention des entreprises genevoises, quels étaient les besoins, de quoi est-ce qu'ils ont besoin aujourd'hui, parce que dans le fond, la volonté des entreprises, au-delà du greenwashing, etc., la volonté des entreprises d'intégrer cette problématique dans leur modèle d'affaires, elle est claire. Ils se rendent bien compte. Enfin, aucun chef d'entreprise, aucune chef d'entreprise aujourd'hui ne peut se dire que, dans le fond, ça ne la concerne pas. Par contre, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et surtout, il faut se rappeler qu'on a un tissu économique qui est composé essentiellement de très petites entreprises. Essentiellement. Donc les grandes, elles peuvent se permettre d'engager des experts de toutes sortes pour les accompagner. Les plus petites, c'est plus compliqué. Comme disait Nathalie très justement, nous, ce qu'on a identifié, c'est 4 besoins, en tout cas, qui sont ressortis. Le premier, un besoin d'un soutien personnalisé. Il y a un manque de temps, un manque de connaissances. Donc ça, c'est identifié. Le deuxième, définir une stratégie, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on pose par rapport à notre entreprise. Et François Sibylle l'a très justement dit, en fonction aussi de votre modèle d'affaires, de votre type d'entreprise, vous n'avez pas les mêmes priorités, dans le fond, à mettre en place. Ensuite, quels sont les moyens? Et là, c'est crucial, je pense qu'on va y revenir. Quels sont les moyens pour mettre ces pratiques, pour modifier les pratiques? Et puis enfin, ça, il ne faut pas l'oublier, c'est quelque chose qu'on a tendance, malheureusement, parfois à oublier assez vite, c'est le suivi. Parce qu'une fois qu'on a réussi à lancer toute la machine, il faut s'assurer que ça se poursuit dans le temps.
Eh bien, nous, on va faire un suivi de cette émission dans quelques minutes sur Radio Lac et sur ONTV. Nous parlons économie.